Retour à questions d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. On s'est longtemps moqué du tigre de papier que représentait le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, même si on savait que ni lui, ni son père, ni son grand-père étaient des gens très fréquentables. Les velléités nucléaires du dernier de la dynastie Kim se font de plus en plus manifestes. Jusqu'où est-il prêt à aller et à frapper? Les récents essais nucléaires indiquent que Pyongyang n'entend pas rire, mettant dans l'embarras son allié chinois et faisant craindre de Donald Trump des réactions impulsives, voire dangereuses. Le point avec le professeur Norman Cornett, spécialiste des États-Unis, connu pour ses entretiens dialogiques et sa connaissance de la politique de son pays d'origine. Professeur Cornett, bonjour.
Bonjour, monsieur Trottier.
On est au lendemain d'une, je crois, 8e résolution des Nations Unies condamnant les essais nucléaires du 3 septembre dernier. Et c'est une résolution qui a été votée par le Conseil de sécurité à l'unanimité.
Oui, l'embargo complet sur les exportations textiles, ce qui n'est pas rien, qui représente plusieurs centaines de millions de dollars pour l'économie nord-coréenne, d'un embargo complet sur le gaz naturel et un embargo partiel sur le pétrole, mais à toute fin pratique, on parle d'une réduction de 10% des produits pétroliers. Est-ce que c'est assez?
Et ça, c'est une première question. On a eu l'accord de la Chine et de la Russie qui sont plutôt favorable à la Corée du Nord, en tout cas beaucoup plus que les États-Unis, la France ou l'Angleterre. Une autre question qu'on se pose, c'est est-ce que la Chine, qui a signé cette résolution, est-ce qu'elle va vraiment les appliquer intégralement ou elle va les contourner ou pas?
Oui, l'application, qui est là, au fait, pour vérifier
exact. Si
on respecte ces ententes. Mm-hmm. Mais vous venez de mentionner deux joueurs de taille. Et de plus en plus, les États-Unis, ça ne va pas vis-à-vis ni la Russie. On n'a que se rappeler la Crimée, une bonne partie de l'Ukraine et les exercices militaires qui viennent se passer dans la région balte qui oui. fait peur, qui fait craindre à ces pays-là. Ne parlons même pas de la Suède maintenant qui exige que ses citoyens fassent partie d'une conscription militaire. C'est pas rien. Et puis, quand on pense à la Chine, la plus grande armée sur la planète Terre.
Et chinoise.
Et chinoise, la quatrième plus grande armée, c'est celle de la Corée du Nord. Et on doit se poser la question un peu comme faisait le chancelier Otto von Bismarck, alors qu'il construisait l'Empire prusse, il avait articulé une nouvelle stratégie qu'on appelle la realpolitik, c'est-à-dire une politique étrangère basée sur les rapports de force, l'intérêt national et qui fait fi des considérations morales et éthiques.
Mais pourtant, professeur Cornett, l'Occident a une spécialité, c'est les droits de l'homme. On oui. est dans la considération éthique. En Chine, ce n'est pas à l'ordre du jour. Il y a déjà certaines choses qui font que l'Occident, d'un côté, affiche une sorte de messianisme, mais une sorte de veut protéger les populations locales. Et en même temps, il y a une réelle politique dont vous parliez, au sujet de Bismarck au 19e, 20e siècle. Il y a deux discours en Occident, il y a deux réalités.
Oui, et vous l'avez dit au début, monsieur Trottier, quand vous disiez il est prêt à aller jusqu'où? Mais il est prêt à aller jusqu'au bout. Ce que les États-Unis ne sont pas prêts à faire. Et c'est ça la ligne de démarcation entre la Chine, la Corée du Nord oui. et les États-Unis, ainsi que tous les pays occidentaux. Dans un premier temps, il n'y a aucune restriction, aucune limite, aucune hésitation, ni morale, ni éthique, encore moins humanitaire dans l'esprit de Kim Jong-un. Et aussi, faut-il dire que quand on se rend compte, il y a là, dans tout ce discours, quand on parle de la Russie et de la Chine, ces deux pieds-là ont quelque chose à dire et puis faut être à leur écoute tant et aussi longtemps que les États-Unis arme la Corée du Sud, tant et aussi longtemps qu'ils font des exercices militaires, et ça à la frontière des deux pays. Et tant et aussi longtemps qu'on n'a pas vraiment résolu la guerre sur la péninsule coréenne. Rappelons qu'il n'y a que l'armistice. On n'a jamais conclu une paix.
On parle de la guerre de 50-53 qui s'est terminée par un armistice. Il n'y a pas de traité de paix, donc c'est temporaire en un sens.
C'est temporaire depuis combien d'années, combien de décennies maintenant? Et c'est ça la difficulté. Et la Russie et la Chine, d'abord, les États-Unis n'est pas dans un rapport de force ni avec la Russie, ni avec la Chine.
Précisons autre chose, professeur Cornette, c'est-à-dire que la Corée du Nord est limitrophe de la Russie, Vladivostok est à 150 km de la frontière, et limitrophe également de la Chine. Si jamais... Alors, la Chine voit d'un très mauvais œil des perspectives de réunification de l'île, ça voudrait dire que l'armée états-unienne serait aux portes de la Chine et également de la Russie. Donc, et les Chinois et les Russes ne veulent pas vraiment que les États-Unis soient trop puissants là-dedans. Maintenant, aux États-Unis, il y a d'un côté Donald Trump qui, lui, veut taper. Mais il y a quand même, par exemple, son secrétaire d'État ou le chef du Pentagone qui, eux, prônent la solution diplomatique. Ce que disait également Nikki Haley, l'ambassadrice états-unienne aux Nations Unies. Il faut dialoguer, il faut contenir. Trump fait-il cavalier seul là-dedans? Est-ce qu'il a des idées à la tête ou pas?
Mais dans un premier temps, c'est une façade de dire que toutes les options sur la table. D'abord, la Chine a mis clair et net toute première frappe de la part des États-Unis, eh bien, les États-Unis vont répondre à la Chine. Et la Chine, au contraire de Donald Trump, ne menace pas, mais passe aux gestes, aux actes. Et c'est ça la différence. Alors, quand James Mattis, le secrétaire de la Défense, quand Rex Tillerson, secrétaire d'État, quand Donald Trump, qui exagère combien de fois, eh bien, les États-Unis savent très bien, du moment, on dit, n'est-ce pas, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, en stratégie militaire, la première frappe, et c'est d'ailleurs le recours d'Israël dans le Moyen-Orient, n'est-ce pas? Et du moment que vous enlevez aux États-Unis cette option d'une première frappe, eh bien, vous les mettez dans une position de faiblesse. Et parlons, voyons grand là. La dette américaine, depuis vendredi dernier, fait 20 trillions de dollars. Je répète, 20 trillions de dollars.
Donc beaucoup sont possédés par les Chinois, non?
Oui, justement. Alors, dans quelle mesure est-ce qu'on... Et puis, Donald Trump vient, il y a quelques semaines, vient d'engager de nouveau les États-Unis dans l'Afghanistan, qui a déjà coûté autour de 750 millions de dollars. Combien de vies? Et il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'objectif clair et net. Et c'est ça la différence. Au point de vue logistique, les soldats sur le terrain, mais c'est la Corée du Nord qui les a, c'est la Chine qui les a. Et même avec l'armée du Corée du Sud et les Américains qui y sont, c'est minuscule comparé sur le plan logistique. Et les États-Unis doivent tout transporter d'ailleurs, alors qu'eux, ils sont sur place.
Il y a aussi un appétit chinois en Asie, c'est d'établir des partenariats avec tous les pays voisins pour établir son influence. Pour l'instant, c'est les États-Unis qui ont des partenariats avec le Japon, avec la Corée, sans doute avec l'Inde. Les États-Unis ont quand même des comptoirs ou des zones d'influence extrêmement fortes autour de la Chine. La Chine n'aime pas ça, donc elle ne voudrait pas voir que la Corée du Nord soit une autre zone d'influence états-unienne en cas d'agression, ou en cas de guerre en tout cas. Et les Chinois voient à très long terme, au moins 2050 sinon plus loin, on a l'impression qu'aux États-Unis, on n'a pas cette vision à long terme.
Oui, et vous faites bien de mettre votre doigt sur l'évolution historique. Regardons ma génération, on était né à l'ombre de la Deuxième Guerre mondiale. Une guerre que certes les États-Unis a gagnée aussi bien en Asie qu'en Europe, oui. Mais une guerre que les États-Unis a terminée en Asie avec des bombes nucléaires. Et je rappelle à l'auditoire de Radio VM, la seule et unique fois dont quand on s'est servi des armes nucléaires, eh bien c'était les Américains contre les Asiatiques. Oui. Et ça, je crois qu'il faut se rappeler de ce que disait Edward Said, l'orientalisme des Américains, leur façon de réductrice de regarder les enjeux en Asie. Les États-Unis rendre à l'Amérique sa grandeur. Les États-Unis de 2017, c'est pas les États-Unis de Hiroshima et de Nagasaki et de la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Professeur Normand Cornette, je rappelle, Edward Said, c'était un intellectuel palestinien, anglophone en tout cas, je crois qu'il parlait également français et arabe forcément, décédé il y a quoi, 6, 7, 8, 9 ans, je pense, et qui parlait donc beaucoup de l'orientalisme des Occidentaux. Et qu'allais-je dire ?
Mais tout ça pour dire que la Chine, vous faites bien de mentionner la Chine. La Chine est redevenue l'empire du milieu. La Chine est maintenant l'épicentre du monde asiatique, du monde diplomatique, du monde économique.
Et la Chine a 5000 ans d'âge, elle a une mémoire très longue.
Exactement. Alors, et puis, s'il y a des gens, s'il y a un pays, une société, une culture, mais qui a une sophistication dans la diplomatie, eh bien c'est la Chine. Mm-hmm. Ça fait des millénaires qui sont diplomates.
C'est pour ça que la Chine et le Vatican se regardent un petit peu face à face, parce que c'est une autre longue tradition diplomatique, l'Église catholique.
Et je crois qu'il faut dire haut et fort qu'il y a un nouvel ordre mondial. Et c'est la Chine qui en est la clé de voûte.
Et Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, est vraiment, est-ce qu'on peut dire que c'est le symptôme d'un mouvement de fond beaucoup plus fondamental ?
Mais dans un sens, croyez-le ou non, le simple fait que la Corée du Nord, ce petit pays, peut tenir tête à Donald Trump, à tous les États-Unis, voire aux pays occidentaux, force est de constater, comme dirait Denis Arcand, par ce qui se passe maintenant, on constate le déclin de l'empire américain.
On regarde ça. Regardons également. Je reviens à la Chine, professeur Cornette. Xi Jinping, qui est le numéro 1 du Parti communiste et qui dirige la Chine, a un congrès national du Parti communiste le 18 octobre prochain. Il aurait voulu claironner tous ses succès, et il en a, et il le mérite du reste. Mais cette crise coréenne assombrit un petit peu, parce que le voisin coréen, nord-coréen, est drôlement embarrassant pour les Chinois. Les Chinois aiment plus ou moins les Coréens ont besoin des Chinois. Il y a un auteur français qui parlait d'une relation d'otage mutuelle. La Corée embarrasse pas seulement les États-Unis. Elle embarrasse également à la Chine, qui voudrait bien que Kim Jong-un se taise et se joue avec ses jouets en plastique et non pas en métal et en poudre.
Mais à la différence des États-Unis, des pays occidentaux et de l'ONU, la Chine a tous les moyens de mettre fin. Vous l'avez dit, c'était sous-entendu dans ce que vous disiez. La raison d'être de la Corée du Nord, c'est comme tampon vis-à-vis la Chine, tampon vis-à-vis la Russie. Et quand je parlais de cette optique orientaliste, dans quelle mesure est-ce que toute l'Asie, tous les pays de l'Asie et la plupart de la planète habitent l'Asie? Les plus grandes puissances économiques et militaires y sont maintenant. Dans quelle mesure est-ce que la Corée du Nord devient en quelque sorte un paradigme
pour d'autres pays?
Pour d'autres pays.
Oui, mais
parce qu'on peut tenir tête.
Et je veux bien, il y a déjà le cas vietnamien qui a gagné la guerre contre les États-Unis.
Et je rappelle, les États-Unis n'ont pas gagné une seule guerre en Asie depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Sauf qu'il faut quand même un régime despotique, une dynastie comme en Corée du Nord. Est-ce qu'il y en a dans d'autres pays asiatiques qui seraient tentés par ces velléités nucléaires, etc. Il y a aussi autre chose, c'est que beaucoup de pays qui entourent la Chine regardent la Chine d'un œil un petit peu craintif et sont bien contents quand même d'avoir un partenariat avec les États-Unis.
Oui, mais Autrefois, on parlait du tiers-monde, les pays en voie de développement, mais on se rend compte là, par le cas nord-coréen, si on veut mettre à genoux la plus grande, entre guillemets, superpuissance démocratique, eh bien, il faut s'armer. Il faut s'armer jusqu'aux dents et il faut s'armer de façon nucléaire. Et c'est là où le danger est énorme pour l'avenir de l'humanité.
Déjà que bon, Pyongyang a la bombe, la Chine a la bombe, le Pakistan, avec le bon Dr. Khan, a la bombe, grâce aux Coréens du Nord, paraît-il.
Et on parle là maintenant, est-ce qu'on devrait l'avoir au Japon? Est-ce qu'on devrait rapatrier des armes tactiques nucléaires sur, en Corée du Sud? Alors, c'est pour cela, ces résolutions, cette batterie de sanctions, la huitième, est-ce que la huitième fois va faire une différence? Mais c'est pour cela, il faut aller étape par étape et diminuer cette escalade verbale, pour ne pas dire nucléaire. Mais là, on va voir, la Chine a le plus grand service de renseignement secret dans le monde entier. La Chine est au courant de tout ce qui se passe en Corée du Nord. L'instant que Kim Jong-un devient en proie trop lourd, la Chine va agir.
C'est peut-être ce que Donald Trump veut, qu'il s'alourdisse pour que la Chine agisse.
Oui,
il n'est peut-être pas si fou que ça, en 30 secondes.
Mettons-nous aux yeux du reste du monde.
Oui.
L'instant que les États-Unis doivent supplier la Chine, aidez-nous avec la Corée du Nord, dans quelle mesure peut-on dire que les États-Unis restent la plus grande superpuissance du monde?
Essayons de voir s'il y en a deux plutôt à l'avenir. Vous reviendrez au micro pour parler de ces choses-là?
Avec grand plaisir, Monsieur Trottier.
Merci beaucoup, Professeur Normand Cornette. Vous nous parliez donc de la crise nucléaire entre les États-Unis et la Corée du Nord sur fond chinois et russe. C'est bien compliqué comme dossier. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. Demain, retour sur le dernier recensement canadien et la touristophobie. À la régie, Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier qui vous remercie de votre fidélité, vous dit à demain et vous invite entre-temps à rester à l'antenne de Radio-VM.